Bon réveillon en petit comité et avec masque. C'est parti pour le 18-20 du vendredi avant réveillon. À 18h15, une semaine en France avec un menu étoilé. On va parler gastronomie, cuisine d'exception avec le chef Bernard Paco, 3 étoiles au Michelin, un chef au top, accompagné d'un top grand reporter, Frédéric Lafont, qui lui consacre un livre d'entretien, Une vie par le menu aux éditions L'Iconoclaste. À 19h20, le téléphone sonne juste avant les vœux du président Macron, présidentiel, sanitaire et réveillon sous Covid. Comment se prépare l'année 2022? On dit qu'elle rime avec heureux. Appelez-nous, le standard est ouvert au 01 45 24 7000. Mais d'abord, le journal. Bonsoir Sébastien Legénie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Au sommaire, un écouvillon à la place des cotillons, de longues files d'attente devant les labos et les pharmacies à quelques heures du réveillon. Les Français qui se testent par centaines de milliers ces jours-ci. Reportage dans les rues de Paris dans ce journal. À quelques heures de la nouvelle année, les forces de l'ordre se préparent. Près de 100 000 policiers et gendarmes mobilisés pour faire respecter les règles sanitaires. Nous serons à Marseille. À suivre aussi les vœux du président Macron. Ce sera à 20h, allocution traditionnelle, décryptée dans un instant par le service politique. Les Sud-Africains qui rendent un dernier hommage à Monseigneur Desmond Tutu. Et puis le choix culturel du vendredi, les trésors de Venise exposés à Aix-en-Provence.
France Inter. Et alors que la France s'apprête à tourner la page de 2021 dans une ambiance maussade, d'autres pays sont déjà en 2022.
Oui, avant de parler de réveillon sous Covid dans l'Hexagone, partons en effet d'abord pour le Japon, qui lui est passé en 2022 depuis 2 heures, et ça ne se passe pas si mal. Le réveillon nippon sans Omicron, c'est toute la différence. C'est un reportage signé de notre correspondante Karine Nishimura.
Train à grande vitesse bondé toute la journée, famille au complet, de nombreux Japonais qui s'étaient privés de festivités du Nouvel An fin 2020 ont renoué avec leur bonne vieille tradition du retour sur leur terre natale pour vivre ensemble à plusieurs générations le passage à 2022. Le Nouvel An est très familial au Japon. Il n'y a pas vraiment de réveillon, mais un des rituels du 31 décembre au soir est de regarder le Kohaku, un très long programme musical de la chaîne publique NHK qui a pris fin juste avant minuit pour laisser la place au compte à rebours et au gong des sanctuaires, ainsi qu'à des feux d'artifice. Le 1er janvier est le jour des grandes victuailles dès le matin avec des mets très particuliers appelés Osechi Ryori. À la fois, la pandémie est un peu oubliée, mais on sait cependant que la vague Omicron risque d'arriver ici aussi, donc ce nouvel an est vécu comme un répit. Pas question donc de trop se relâcher, les gestes barrières et le port du masque restent généralisés. Note positive, selon une chamane japonaise rencontrée très récemment, la pandémie prendra fin d'ici au printemps. Hamamatsu, Karine Nishimura, France Inter.
Et en France, c'est donc la course vers les tests.
Oui, pas de répit ici, contrairement au Japon. D'habitude, à 7h, on se rue chez les cavistes ou chez le coiffeur. Mais cette année, on frise la surchauffe dans les pharmacies, les laboratoires. Jamais les Français ne se sont autant fait tester depuis le début de la pandémie. Plus d'un million de tests chaque jour, antigéniques ou PCR. Les uns sont un peu paniqués avec le variant Omicron qui galope. Les autres veulent se rassurer pour fêter le réveillon en toute tranquillité. Revue des troupes avec vous, Julien Morcelli, dans les rue de Paris à quelques heures d'un nouvel an plein d'incertitudes.
Devant le chapiteau d'une pharmacie, une file d'attente d'une dizaine de mètres. Noé et Lucas, deux lycéens parisiens.
Ça se passe très bien, on remplit juste un formulaire en ligne et voilà, ça va très vite. Parce qu'on a 2 soirées.
Vous savez combien vous soirez à peu près?
Une vingtaine par soirée, ouais, quelque chose comme ça.
Et il nous a tous demandé de faire un test avant de venir et comme ça on est sûr. Et on va faire confiance à tout le monde et voilà.
Et au bout de 20 minutes, ils ressortent. Ouf, c'est négatif. Autre pharmacie, autre ambiance. Elsa, étudiante en médecine, au milieu d'une quarantaine de personnes.
Bah là, c'est compliqué. Il y a beaucoup de monde. Et du coup, on attend. Hein. On attend beaucoup. Là, ça fait 40 minutes, mais j'ai eu un problème avec les papiers et tout ça. J'ai pas trop compris comment fallait remplir. Enfin, c'est un peu le bazar, en fait, je crois.
Laura, elle, regarde l'heure et commence à paniquer. Elle pense avoir le Covid et n'arrive pas à obtenir de test PCR.
En fait, j'ai une ordonnance parce que j'ai des symptômes. J'aimerais me faire tester. Les laboratoires, apparemment, sont soit fermés parce que ce sont les fêtes. À chaque fois, il y a une queue énorme pour faire les tests. Franchement, je ne sais pas si j'ai le courage de faire une longue attente comme ça. Et là, je peux même pas voir ma famille parce que je ne peux pas prendre le risque de leur donner le virus.
Pour la jeune femme, ce soir, ce sera comprimé de paracétamol et un petit appel Skype quand même avec ses copines, on espère.
Ça, Ça fait envie, Julien Morcelli. Si l'on se teste en masse, c'est que le nombre de contaminations flambe depuis quelques jours. 206 000 cas encore hier, on attend les chiffres de la journée. Avec le risque, évidemment, d'un impact majeur sur les services hospitaliers en prévision, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France demande aux établissements franciliens de déprogrammer le maximum d'activités chirurgicales et médicales. Voilà pour l'aspect santé de ce réveillon, mais il y a aussi, comme chaque année, un enjeu de sécurité, une soirée du Nouvel An sous haute surveillance, 95 000 policiers et gendarmes déployés sur tout le territoire, dont 9 000 à Paris, avec cette année des défis supplémentaires. Donc le masque obligatoire dans la rue ou la fermeture des bars à 2 heures. Illustration à Marseille où 700 membres des forces de l'ordre seront présents sur le terrain dans les Bouches-du-Rhône. Hugo Charpentier.
En plus des missions classiques de sécurité publique, les forces de l'ordre vont devoir procéder au contrôle des mesures sanitaires, en particulier dans les ERP, les établissements recevant du public. Frédéric Camilleri, la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Les policiers et les gendarmes ont bien pour mission d'aller vérifier que les discothèques sont bien fermées, qu'il n'y a pas de soirée festive dans des ERP. Et pour ceux qui n'appliqueraient pas ces règles, nous avons un outil qui est celui de la mise en demeure, potentiellement suivie d'une fermeture administrative. Et sur le seul mois de décembre, nous avons fait 500 contrôles. Il y a eu une cinquantaine de mises en demeure et 4 fermetures administratives.
Autre mission, empêcher le rassemblement des fêtards dans la rue, la consommation d'alcool sur la voie publique, mais aussi faire respecter le port du masque en extérieur. Il est à nouveau obligatoire dans les Bouches-du-Rhône. La décision a été prise hier soir.
Je rappelle que le taux d'incidence dans les Bouches-du-Rhône, il est de 1275. C'est un des taux les plus hauts en France. Un test sur 10 est positif dans notre département. La réanimation est à plus de 100% d'occupation. Et en fait, ce dispositif, il est là pour sévir avec les rares personnes qui ne veulent toujours pas respecter les règles et qui ne prennent pas les précautions d'usage qui servent à les protéger et à protéger les autres.
Enfin, les gendarmes déployés aussi sur les routes. Dans un département où les chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons, 100 personnes sont mortes depuis le début de l'année dans les Bouches-du-Rhône.
Hugo Charpentier à Marseille, le masque obligatoire dans les rues, donc dans toutes les grandes villes ou presque, obligatoire aussi dans les stations de ski. Après la Savoie et la Haute-Savoie, c'est au tour de l'Isère et des Hautes-Alpes.
Il y a un an, le chef de l'État parlait d'espoir.
Un an après, c'est dans une ambiance plombée par le retour du virus qu'Emmanuel Macron s'apprête à présenter ses vœux à la nation. Un discours d'une grosse dizaine de minutes à 20h, retransmis en direct sur France Inter. Bonsoir Anne Souhaitement.
Bonsoir.
Le président qui va devoir cette fois-ci relever un triple défi.
Oui Sébastien, ses vœux enregistrés à l'Élysée, ce seront d'abord ceux d'un président en pleine vague Covid. Encore une fois, rappelez-vous l'an dernier, après 10 mois de pandémie, Emmanuel Macron lançait un message d'optimisme. L'espoir est là, allusion au tout début de la campagne vaccinale. Depuis, 3 vagues ont douché l'espoir d'une sortie rapide de la crise. C'est donc à des Français épuisés par le Covid qu'Emmanuel Macron va s'adresser ce soir. Les vœux aussi d'un président en exercice, les derniers de son quinquennat. Emmanuel Macron défendra son bilan et pas seulement en matière de gestion de la crise sanitaire. Le chef de l'État soulignera aussi les bonnes nouvelles sur le front de l'économie et de l'emploi. Un chômage au plus bas depuis 2008 avec 8,1% d'actifs sans emploi aujourd'hui. Les vœux enfin d'un probable candidat à un second mandat. Emmanuel Macron n'a toujours pas dit s'il se représenterait en 2022, mais l'Élysée indique qu'il dressera ce soir la liste des défis auxquels la France fera face l'an prochain. Comment ne pas y voir une projection dans l'après-présidentielle ?
Anne Souhaitement du service politique d'Inter. La plupart des candidats à la présidentielle ont devancé le chef de l'État et présenté leurs vœux dès ce matin ou cet après-midi. Année cruciale pour Marine Le Pen, année de l'adieu à Emmanuel Macron pour Éric Zemmour. Anne Hidalgo plaide pour une alternative républicaine, sociale, écologique et de progrès. Valérie Pécresse veut lever un espoir en 2022 et Yannick Jadot lui a décidé de célébrer l'année 2027 au terme d'un hypothétique quinquennat écologiste. En économie, ce mauvais chiffre de l'industrie automobile pour cette année 2021, un quart de vente en moins par rapport à 2019, du jamais vu depuis près de 50 ans. La voiture électrique, en revanche, tire son épingle du jeu avec près d'une voiture vendue sur 10 qui est électrique, la Tesla passant pour la première fois devant la Zoé de Renault. L'actualité à l'étranger, c'est l'Afrique du Sud et ce dernier adieu à son archevêque, le plus célèbre Desmond Tutu, décédé le week-end dernier à l'âge de 90 ans. Toute la semaine, les Sud-Africains ont rendu hommage à cette grande figure de la lutte contre l'apartheid. Ils étaient notamment nombreux aujourd'hui à être venus se recueillir devant son cercueil déposé dans la cathédrale du Cap. Un cercueil très simple et très pur, à l'image des combats menés par l'archevêque pour les plus démunis et les plus marginalisés. Reportage sur place de Claire Bargelès.
Ils se sont levés tôt pour assister à l'arrivée du cercueil de Desmond Tutu au sein de la cathédrale Saint-Georges. Pour Barrymore, c'est une page d'histoire qui se tourne.
C'est un privilège d'être ici, c'est pour cela que je me suis si bien habillé, car on vient faire honneur à un géant de notre pays. Nous avons tous en tête qu'il est l'une des dernières grandes figures ici. Ce leader a été notre guide moral et il faut maintenant que l'on se saisisse de son bâton et qu'on se guide nous-mêmes.
C'est une foule très diverse qui est venue le saluer, des Sud-Africains de différentes couleurs et de différents combats. Kinan est lui venu rendre hommage à celui qui s'est battu pour la communauté LGBT.
D'autres religieux d'églises différentes n'étaient pas forcément d'accord avec lui, mais au moins on avait cette personne incroyable qui se tenait à nos côtés et cela nous a donné le courage d'être qui nous sommes.
La cause palestinienne lui tenait également à cœur. Ce qu'ont voulu rappeler plusieurs militants, comme Fazlin, venus installer des drapeaux sur le passage du cortège.
L'archevêque parlait haut et fort et toujours en faveur de la Palestine. Il était aux côtés du peuple, auprès des pauvres. Tous les combats pour les opprimés, il les a menés.
La cérémonie des obsèques ne devrait rassembler qu'une centaine de personnes pour cause de pandémie, après quoi les cendres de Desmond Tutu reposeront au sein de cette cathédrale. Au Cap, Claire Bargelès, RFI pour France Inter.
Les cendres de Desmond Tutu qui seront déposées demain au sein de la cathédrale Saint-Georges du Cap.
Du sport avec la menace du Covid qui plane sur les 16e de finale de la Coupe de France.
Oui, les matchs reprennent dès dimanche et pour certains petits clubs qui défient les gros, ces matchs sont très attendus. Ils n'en vivront peut-être qu'une seule fois dans leur vie. Alors, quelles mesures prennent les joueurs amateurs et leur staff pour éviter les clusters ? Laetitia Bernard leur a posé la question.
Pour les joueurs amateurs de Chauvigny dans la Vienne, une chose est sûre, personne n'a envie de manquer le rendez-vous contre l'Olympique de Marseille ce dimanche. Alors oui, rien n'est laissé au hasard face au Covid. L'entraîneur Stéphane Maloyer.
On essaie de faire le maximum, que ce soit même pour les entraînements. Les garçons arrivent pratiquement même la plupart tous habillés, repartent habillés, des fois prennent la douche à la maison pour pas être dans les vestiaires. Je leur ai demandé même au quotidien, tous les jours, de faire attention où ils allaient, avec qui ils étaient, fallait qu'ils restent vraiment dans un cocon.
Aucun report de match ne sera possible. La fédération l'a déjà fait savoir. Si une équipe compte trop de cas positifs, elle devra déclarer forfait. À Chauvigny, les joueurs passeront la Saint-Sylvestre en comité le plus réduit possible. Au Van Olympique Club aussi. Leur futur adversaire dès lundi s'appelle le Paris Saint-Germain. Le président délégué du club, Daniel Bourreau, fait totalement confiance à son effectif.
Ils vont jouer peut-être le meilleur match de leur vie et je pense pas qu'ils aient envie de prendre le moindre risque et courir le moindre risque. Ils ont vraiment envie de jouer ce match plus que de faire la fête, oui, c'est sûr.
Et de préciser, leur fête à eux, ce n'est pas ce vendredi 31 décembre comme tout le monde, mais lundi soir.
Laetitia Bernard, des trésors vénitiens pour terminer l'année, des trésors exposés à l'hôtel de Caumont, à Aix-en-Provence. Il s'agit de la collection Cini, l'une des plus prestigieuses collections d'art ancien italien. C'est la première fois qu'un nombre aussi important de chefs-d'œuvre de la collection quitte l'Italie. 70 peintures, dessins, sculptures du 14e au 18e siècle, 70 trésors de Venise, Isabelle Pasquier.
Parmi ces trésors venus de Venise, cette Vierge à la grâce diaphane, une œuvre du peintre mathématicien florentin Piero della Francesca ou de son élève Luca Signorelli. Autre merveille, une Vierge entourée d'anges musiciens, de Filippo Lippi, le maître de Botticelli. Passionné d'art ancien, Vittorio Cini a eu une vie romanesque. Il a été ministre de Mussolini avant d'en devenir son ennemi. Anna de Benedetti est la directrice des expositions à Culture Espace.
C'est un entrepreneur qui a été quand même un des plus grands acteurs de l'industrie du nord de l'Italie, qui a subi le joug fasciste mussolinien jusqu'au moment où il se rend compte que en fait ces idées-là ne vont pas du tout dans le sens de ses propres réflexions de philanthrope. Et donc il se rebelle et la punition tombe, il est emprisonné et c'est son fils qui vient le libérer en avion de sa prison. Il se réfugie en Suisse et puis revient un peu en cachette en Italie, où il est réhabilité. Il deviendra d'ailleurs sénateur en 1934 en Italie.
Dans la collection, la sérénité des apôtres sur fond d'or de Giotto, le portrait de deux amis de Pontormo, enfin les estampes des terrifiantes prisons imaginaires de Piranèse qui ont inspiré Borges et Umberto Eco.
Trésor de Venise de la collection Cini, c'est jusqu'au 27 mars à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence.
C'était le journal de 18h de Sébastien Logeni. Merci. La météo dans un instant.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Beaucoup de soleil demain pour le 1er janvier.
Oui, 2021 s'est terminé sous le soleil. 2022 prendra la relève également sous le soleil, le ciel étant le plus souvent légèrement voilé. Alors dans la vallée de la Garonne et le quart nord-est, comme ce matin, il faudra quand même attendre la dissipation des grisailles matinales pour profiter de ce temps ensoleillé. Entre le Lyonnais et le Val-de-Saône et sur le plateau Lorrain, les grisailles se maintiendront l'après-midi. Le ciel sera aussi bien bouché sur les côtes autour de la Méditerranée, toujours à cause des entrées maritimes qui concerneront les plages du Languedoc-Roussillon au delta du Rhône et au littoral provençal, mais aussi les contours de la Corse. En revanche, l'arrière-pays méditerranéen bénéficiera d'un temps bien ensoleillé. Et puis en Bretagne, le voile de nuages élevé deviendra de plus en plus épais l'après-midi à l'approche d'une perturbation. Quelques gouttes seront même possibles avant la fin de journée.
Et toujours de la douceur, hormis la grisaille.
Oui, seulement 8 degrés de prévu à Lyon, 10 degrés à Dijon, 12 degrés à Montpellier, alors qu'il faisait 21 degrés hier à cause justement des entrées maritimes. Mais sous le soleil, les maximales resteront 4 à 7 degrés au-dessus des normales de saison. 14 degrés pour Paris, Lille et Mulhouse, 15 degrés à Rennes, La Rochelle et Bourges, 16 degrés à Ajaccio, 17 degrés à Limoges, Toulouse et Gap, 21 degrés à Foix et Mont-de-Marsan. Le seuil des 25 degrés pourrait même être dépassé entre le Pays Basque et la Bigorre.
Sébastien Léas de Météo France, merci.